le but de ce livre, j'ai plutôt voulu montrer d'abord que des personnes pouvaient s'en sortir. Et ce livre, d'ailleurs, aurait pu s'appeler « Comment ils s'en sont sortis ».
Alors, ils s'en sont sortis, c'est donc une enquête que vous faites après coup, lorsque parfois les douleurs sont un petit peu éteintes, les chagrins sont légèrement oubliés, mais que le souvenir demeure. Ces chagrins sont de différents ordres. Et j'ai envie tout de même de vous demander pourquoi, à un moment donné, est-ce qu'on s'intéresse à ce genre de problème ? La société a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faut pas, au contraire, positiver plutôt que négativer ? Ou est-ce que, en fait, c'est positif ce que vous avez voulu dire ?
Ah, c'est très positif. C'est très positif. D'abord, parce que tous les gens que j'ai rencontrés, qui, comme vous l'avez dit, ont vécu un malheur très très difficile il y a plusieurs années, et donc peuvent en parler avec sereine, toutes ces personnes donc sont aujourd'hui debout, peuvent en parler, et ils n'ont rien oublié. C'est toujours très présent dans leur cœur et ils aiment d'ailleurs en parler. Enfin, ils aiment en parler, ils aiment en parler pas dans n'importe comment, mais ils aiment en parler. Et tous ces gens se sont sortis, c'est donc un livre positif.
J'ai l'impression que ce sont surtout les femmes qui peut-être parlent mieux de leur souffrance, de leur douleur, car il s'agit souvent de femmes qui ont soit perdu un enfant, soit qui sont malades ou qui ont des proches autour d'eux qui souffrent. Est-ce que les femmes sont plus sensibles ?
Ça, c'est très difficile de généraliser. C'est vrai que moi, les femmes que j'ai rencontrées parlaient beaucoup, beaucoup plus facilement que les hommes. Et les hommes que j'ai rencontrés avaient beaucoup plus de mal à en parler, et n'en parlaient que vraiment parce que leurs femmes le leur demandaient. Alors, c'est une question que je me suis posée tout au long du livre. Est-ce que, quand quelqu'un ne veut pas parler, il faut un peu le brusquer, ou pas ? Et je ne crois pas qu'il faut brusquer, il faut peut-être, enfin, la plupart des personnes à qui j'ai posé la question m'ont répondu qu'il fallait être ouvert et il fallait lancer un peu une perche. Et puis, on voit bien si la personne la prend tout de suite, plus tard ou jamais.
Gagner la confiance, pour vous, c'est une manière déjà d'interroger, mais en même temps, on s'aperçoit que les gens à qui vous demandez « vous avez souffert, est-ce que vous voulez en parler aujourd'hui ?», ils ont un énorme besoin de parler. Comme si pendant de nombreuses années, les choses qui étaient enfouies au fond d'elles, finalement, avaient toujours besoin de s'exprimer au grand jour.
C'est très difficile parce que c'est très difficile pour eux, ça c'est sûr, mais c'est très difficile pour l'entourage d'une personne qui souffre. Et ce livre, justement, leur est destiné. Parce que chacun a ses soucis, chacun a ses chagrins. On parle, professeur Damagor, qui est la belle-sœur de Geneviève qui a perdu ses deux filles, disait différencier les malheurs ordinaires des malheurs extraordinaires. Et c'est très difficile, en plus de ses propres soucis quotidiens, de porter le chagrin des autres et de porter des douleurs parfois inimaginables. Et parce que c'est difficile surtout parce qu'on croit qu'il faut tout porter. Alors que ce livre avait pour but de montrer qu'un petit geste, un petit coup de fil, un petit quelque chose peut aider considérablement une personne. Ce livre avait pour but de montrer que les amis aident vraiment, que l'entourage aide vraiment, et pas forcément par des gestes spectaculaires ou des investissements de temps et considérables.
C'est vrai que la douleur parfois éloigne les autres. La maladie fait peur, tout ce qui est marginal souvent nous angoisse. La douleur des autres fait peur parce qu'on ne sait pas trouver les mots, on ne sait pas quoi dire, et on sait mal porter la souffrance des autres. Or, il semblerait que l'amitié, l'amour, la présence est très important de ce côté.
Oui, et plusieurs responsables d'associations m'ont dit la fuite est une réaction saine et normale. Ce serait normal d'aller au-devant de la douleur. Mais il y a des moments où il faut savoir aussi sauter le pas. Et parce que c'est vraiment utile, c'est vraiment utile. Et tout au long du livre, je crois, on voit.
Alors, ces chagrins dont vous parlez, une femme perd ses deux petites filles dans un accident de voiture, d'autres femmes perdent leur enfant, ces morts subites de nourrissons que l'on connaît parfois et qui s'annoncent, bien sûr, comme ça, en quelques minutes, tout d'un coup, une vie qui bascule. Vous parlez aussi de maladies graves dont on s'accommode parfois mal, et en particulier dont l'entourage s'accommode mal. Et à ce moment-là, souvent, la solitude prévaut en plus de la douleur et de la souffrance. Vous vous adressez finalement à ceux qui ont souffert ou ceux qui ont été à côté de ceux qui ont souffert ?
Alors, je m'adresse à ceux qui ont été à côté, parce que alors, chaque histoire que je raconte, enfin, chaque témoignage pourrait être un livre à lui tout seul. Et le but était vraiment de toucher les personnes de l'entourage, pas les personnes qui souffrent, parce que ça, c'est un tout autre sujet.
C'est un sujet que l'on fait facilement, je ne vais pas dire le cœur allègre, parce qu'il faut mettre à beaucoup de soi, mais en même temps, mettre aussi, beaucoup de sentiments et en même temps de discrétion.
Oui, beaucoup de discrétion, mais en même temps, le métier de journaliste demande beaucoup d'indiscrétion. Donc, je crois que j'ai jonglé un petit peu entre les deux.
Mmh. C'est plus facile de rédiger ensuite tout seul devant sa feuille blanche que d'aller faire l'interview proprement dit.
C'est-à-dire que, oui, à chaque rencontre m'a bouleversée. Et donc, j'ai essayé à chaque fois, devant ma feuille, de retranscrire avec beaucoup, beaucoup de précision, très exactement, ce qui s'était passé pendant notre rencontre. Et pour que le lecteur puisse percevoir justement cette émotion, et que moi, je sers de courroie de transmission entre la personne que j'interroge et le lecteur.
Oui, vous parlez même des silences, vous parlez même des hésitations, des yeux qui bougent, des têtes qui se tournent.
C'est très important, le silence. Et une des personnes que j'ai interrogées, qui avait perdu ses deux petites filles, qui était la grand-mère, qui était vraiment bouleversée, m'a dit qu'une des personnes qui l'avait le plus aidée était paradoxalement sa femme de ménage, avec de qui elle n'était pas spécialement proche, qui est arrivée, qui s'est assise à côté d'elle, et qui n'a rien dit pendant une demi-heure, et qui est repartie. Et pour elle, ça a été un énorme pansement sur son chagrin.
Valérie Colin-Simard, avec un sous-titre « Ils ont besoin de vous, osez aller vers eux, le chagrin des autres » paru aux éditions Anne Carrière.
Dans un ciné, dans un péché, il y avait un film de Polanski. Pas de Chinatown, mais que de ça. Celui avait la main. J't'ai embrassé près de l'Irlande. C'était le sang. Le retour au bureau du lundi matin. Plus que 10 heures à attendre, vous dites-vous.
De quoi faire monter la fièvre à El Paso, vous qui, pour la première fois, haïssez le week-end, 3 jours sans collègues de travail et donc sans hommes. Mais il y a danger. 72% des Français, en effet, ont été témoins de liaisons sur leur lieu de travail. Vérité ou rumeur, des yeux vous guettent partout, à la cantine, dans le hall d'entrée et surtout dans les salles de réunion. Des yeux qui épient vos moindres faits et gestes, multipliés par 2 dans les jours fastes. Et c'est vrai qu'il y a aussi du contre. Si vous formez un couple boulot-boulot, de quoi allez-vous parler à la maison, au dîner, le dimanche avec les enfants, de boulot-boulot encore. Et pourtant, 12% des couples se sont rencontrés au travail. Fini les discothèques, les bals, les fêtes de famille, les bancs publics des squares. L'amour aujourd'hui naît entre dépenses et recettes, entre actifs et passifs. Et le rêve enfin réalisé vous fera aimer le boulot plus qu'il ne faut. Ne croyez pas pourtant en m'écoutant que je sois obsédée. Les unes des autres, c'est notre émission, c'est votre émission. C'est une équipe d'hommes et de femmes, 50-50, qui est sûrement en train de faire baisser les statistiques. Boulot câlin pour nous, c'est à ne pas mettre dans le même panier et chacun sa porte mieux. On va dire qu'il y avait d'un côté Sophie Piat et Vicky Sommet, de l'autre Patrick Lemur et Jean-Marc Mounier. J'ajoute Rachel derrière la consonne. 50-50, pas tout à fait. Rassurez-vous, nous allons bien et on souhaite vous retrouver demain. Bonne journée à vous. Au revoir. RFI, 10h30 en temps universel, 11h30 à Paris et à Cotonou. Isabelle Guaraudeau, je vous salue, je vous souhaite un bon lundi, une bonne semaine et surtout, j'attends de vous les titres du journal de midi. Hein? Radio France Internationale, 10h30 en temps universel, 12h30 à Paris. J'accueille nos auditeurs des Caraïbes et de l'Amérique du Nord dans les 19 mètres sur 15 365 kHz et dans les 16 mètres sur 17 575 kHz. J'accueille aussi nos auditeurs d'Océanie, nous émettons pour eux dans les 19 mètres sur 15 285 kHz. Pendant une heure. Pour la péninsule indochinoise et Shanghai, nous allons émettre dans les 19 mètres sur 15 215 kHz et pour la Chine dans les 31 mètres sur 9 650 kHz. Je vous laisse en compagnie de Gilles Pérez pour les titres du journal de 13h. Bonjour Gilles.
Merci de m'accueillir, Vicky. C'est dans la matinée que Casimir Bah sera enterré. Pour le moment, toujours aucune revendication concernant l'assassinat de l'ancien Premier ministre. Je vous rappelle que le colonel Merba a été tué samedi près de son domicile à Alger. Dans une embuscade où son fils, son chauffeur, son frère et un garde du corps ont également trouvé la mort. En Jordanie, c'est le roi Hussein qui l'affirme. Le souverain jordanien détient, d'après ses déclarations, la preuve que la tentative d'assassinat contre lui en juin dernier est l'œuvre des islamistes. Un procès devrait prochainement donner les détails de cette affaire et ses implications. En Bosnie-Herzégovine, c'est l'agence Tanjug de Belgrade qui l'annonce. De violents combats opposent depuis ce matin les forces serbes et musulmanes près de la ville de Berko. Quant à la situation à Mostar, dans cette enclave musulmane où quelques 55 000 personnes sont assiégées par des Croates de Bosnie, les Nations Unies, par le biais du Haut